Alors, la semaine dernière, je n'étais pas ici au culte et Charlotte, d'après les échos que j'ai eus, Charlotte, notre pasteur, a prêché sur le passage qui précède juste dans Jean, l'extrait que nous avons lu. Alors, vous allez peut-être trouver des choses que nous avons en commun. Heureusement, nous avons beaucoup de choses en commun. Et puis, d'autres réflexions. Et ça va entrera en dialogue avec ce que Charlotte a partagé avec vous la semaine dernière. J'ai faim. J'ai soif. Je suis fatiguée. Nous avons faim. Nous avons soif. Nous sommes fatigués. Avez-vous remarqué comme les mots de la Bible sont humains? Comment ils nous touchent dans notre humanité? Pour moi, ils sont d'autant plus d'actualité en cette période de vacances qu'en même temps que je préparais cette prédication, il me fallait préparer des menus pour toute la famille regroupée. Quoi manger? Quand faire les courses? Préoccupation de riches, sans doute, dans un pays où la nourriture ne fait pas défaut, loin de là, où les régimes minceurs encombrent la télé. Nous ne sommes pas au désert, et pourtant le texte de l'Exode nous parle encore. Nous ne sommes pas sur la montagne où Jésus a nourri 5 000 hommes. Et pourtant, nous sommes encore intrigués, questionnés par cette multiplication des ressources. Et nous pouvons nous poser la question naïve. Que s'est-il passé vraiment là-bas? Et qu'est-ce que cela veut dire dans nos vies, maintenant? Dans le passage de l'évangile de Jean que nous avons lu, Jésus donne le sens du geste qu'il a fait en nourrissant la foule qui était venue voir le prophète, toucher le guérisseur, foule avide, il faut bien le reconnaître, avide de prodiges merveilleux, avide de miracles. Que s'est-il passé sur la montagne? La part rationnelle, scientifique de notre esprit moderne dit, cela n'est pas possible qu'il ait nourri concrètement tous ces gens à partir de 4 fois rien. La part symbolique, poétique de notre esprit dit, il ne faut pas s'attacher aux aspects matériels et vérifiables, mais plutôt rester dans le domaine du sens. Et si nous cessions d'opposer ces deux parties en nous? Et si, comme Jésus l'a montré de manière si limpide, l'humain était ce corps spirituel, l'humain est cet esprit corporel. Jésus, en bon juif qu'il est, ne sépare pas le corps de l'âme. C'est une option de la philosophie grecque qui a marqué la pensée des rédacteurs du Nouveau Testament et marqué ainsi les textes. Mais dans la pensée juive, l'humain n'est pas séparable en morceaux. Quand Jésus agit, quand il guérit, quand il parle, il s'adresse à l'humain tout entier. Cet humain que je viens d'appeler entier n'est pourtant pas complet, dans le sens où il ne peut vivre seul. La tentation est grande de vouloir subvenir totalement à nos besoins, de n'avoir besoin de personne, d'installer autour de nous tout ce qu'il faut pour vivre. Un petit monde clos et suffisant. Une assurance contre le creux, le manque, le vide existentiel. Le message de Jésus vient troubler ce beau fantasme. Il nous annonce que vivre, c'est recevoir. Vivre, c'est croire. Vivre, c'est faire confiance à l'autre. Alors le texte de Jean est un peu, est magnifique bien sûr, mais un peu douloureux. Douloureux dans le malentendu. Et c'est souvent dans l'évangile de Jean. Les auditeurs, on l'a entendu, restent bloqués dans leur volonté de s'accaparer les bienfaits qu'ils voient de leurs yeux, les bienfaits qu'ils mangent de leur bouche. Paul Vergelier, un auteur que j'ai lu récemment, il dit « Quand on est en quête de miracles, il n'y en a jamais assez. » Jésus, lui, parle de la vie à recevoir, du pain de vie, de lui, lui qui donne vie au monde. Mais les auditeurs, ça peut être nous, hein, mais les auditeurs persistent. Que nous faut-il faire pour bénéficier de ces bienfaits? Croire en celui qui fait vivre, dit Jésus. Ah bon? Mais alors il nous faut des preuves. Nous ne pouvons pas croire comme ça sans garantie. Il n'y a pas si longtemps que j'ai compris que nous pouvions tenter Dieu. Si tu es Dieu, alors montre-le. Heureusement, notre Dieu a plus d'humour que nous, et le seul résultat serait notre désarroi d'avoir fait fausse route. La demande du Notre Père, modifiée récemment, peut aussi s'entendre ainsi. Ne nous laisse pas entrer en tentation vis-à-vis de toi. Crois maintenant, crois seulement, sois simplement paisible et vivant. Crois seulement, pour rien. Et je voudrais pour terminer mettre en parallèle le dernier verset de notre extrait avec un verset de l'Apocalypse. Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Avec ces quelques versets du livre de l'Apocalypse qui font écho également à des versets dans Ésaïe ou bien au psaume 121. Donc tout ça, ça court tout le long de la Bible. Dans l'Apocalypse au chapitre 7, les versets 13 à 17. Alors l'un des anciens me demanda, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui répondis, c'est le visionnaire qui parle, hein, je lui répondis, bon, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, ils lui rendent un culte, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors nous croyons, nous, que c'est commencé et que nous sommes en de bonnes mains, n'est-ce pas? Amen.